Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Jusqu'à 100 000 personnes attendues à Tulsa, Oklahoma. Premier meeting de campagne de Donald Trump. Rendez-vous très polémique. Nous y serons. L'intervention d'Emmanuel Macron après les propos de l'ancienne patronne du parquet national financier sur l'affaire Fillon, le président de la République saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Information de la nuit issue du Conseil de défense et de sécurité, la suite du déconfinement, réouverture des ciné lundi le 11 juillet, stade et hippodrome et pas plus de 5 000 personnes. La fête de la musique demain, conditions sanitaires particulières évidemment, événements sur Inter tout au long de la journée à l'Olympia en direct, sans public, on en parle avec vos invités à 8h20 Eric.
Oui, les invités Pomme et Gaëtan Roussel, Pomme qui sera en concert demain à 11h, donc retransmis sur France Inter, et Gaëtan Roussel à 18h. Vous pouvez leur poser vos questions, c'est maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, l'appel à la grève des magasins La Halle aujourd'hui, et puis visite du chantier de Notre-Dame avec un cordiste.
France Inter.
La statue d'un général confédéré abattu à Washington ces dernières heures par des manifestants, des milliers d'Américains qui défilent pour le 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et la colère contre le racisme et les violences policières qui ne retombent pas. Voilà le contexte pour la reprise de campagne de Donald Trump, 4 mois et demi de la présidentielle. Gros meeting à Tulsa dans l'Oklahoma, maintenu malgré l'avis des autorités sanitaires. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Envoyé spécial pour France Inter à Tulsa. Alors, couvre-feu décrété puis annulé?
Oui, il y a eu ce couvre-feu imposé jeudi soir par le maire républicain de Tulsa. Avant cela, Quick Trip, une chaîne locale de supérettes, avait décidé de fermer ses magasins en centre-ville pour la sécurité de ses employés. Donald Trump lui a menacé sur Twitter ceux qui songeraient à perturber son meeting. Il a parlé d'anarchistes et de pilleurs, mais bon, pour l'instant, pas d'incident majeur à signaler, c'est vrai. Que des barricades ont été installées tout autour du Box Center, hein, la salle de 19 000 places où il va tenir son meeting ce soir. C'est un meeting important pour activer une nouvelle phase de la campagne électorale et pour relancer la machine Trump. Les derniers sondages ne lui ont pas été très favorables avec une crise sanitaire qui a fait plus de 115 000 morts et 40 millions de chômeurs.
Alors, vu le contexte aux États-Unis, on peut imaginer que Donald Trump va évoquer les relations raciales dans le pays, voire tenter d'apaiser la situation?
Alors, ce n'est pas forcément le genre de la maison, vous l'aurez remarqué, mais pourquoi pas? Encore une fois, il a besoin de remonter dans les sondages. Il pourrait aussi choisir de plutôt aller dans le sens de ses supporters les plus fidèles. Certains campent depuis des jours sur les trottoirs de Tulsa, d'autres font de la trottinette électrique avec un drapeau Trump. Ce qui est sûr, c'est que le choix de Tulsa ce week-end est mal passé chez la communauté noire. D'abord parce que la ville a été théâtre d'un épisode racial très violent avec un bilan qu'on estime à 300 morts des Noirs attaqués par des Blancs en 1921. Ensuite, parce qu'on a fêté vendredi Juneteenth, la fin de l'esclavage, et qu'on aurait préféré ici qu'il choisisse un autre moment pour son grand retour en campagne, pour ne pas faire d'ombre à ce jour important pour les Afro-Américains.
Loïc Piala, Tulsa pour France Inter. Cette résolution adoptée hier soir par le Parlement européen qui déclare que la vie des Noirs compte. Black Lives Matter, le nom du mouvement né aux États-Unis justement.
L'Élysée dit vouloir lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans l'affaire Houlette.
À savoir ces déclarations de l'ancienne patronne du parquet national financier, Emmanuel Macron demande son avis au Conseil supérieur de la magistrature, communiqué publié hier soir. Rappel des faits, il y a 10 jours, Éliane Houlette affirmait devant une commission parlementaire avoir subi des pressions au cours de la première enquête sur l'affaire des emplois fictifs du couple Fillon. Puis elle a précisé qu'il ne s'agissait pas de pression politique directe, mais de sa supérieure hiérarchique, la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault. Jean-Philippe Deniaux.
Ce ne pourrait être que l'histoire d'une querelle de palais entre deux hauts magistrats qui ne s'apprécient guère. Sauf que cet épisode rouvre une plaie douloureuse de la justice française, la question de son indépendance. Deux dispositions du Code de procédure pénale permettent, petit 1, à un procureur général de demander à ses procureurs des rapports sur les enquêtes en cours, et petit 2, au ministère de la Justice de demander à ses procureurs généraux la transmission de ces fameux rapports. Ainsi, un ministre peut suivre en direct l'avancée d'une enquête, même si depuis la loi Taubira de 2013, le garde des Sceaux ne peut pas en retour donner des instructions au parquet. En saisissant le Conseil supérieur de la magistrature pour, dit-il, lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice, le président de la République pourrait ainsi obtenir un précieux avis pour convaincre les parlementaires de l'urgence d'adopter une réforme constitutionnelle pour l'indépendance de la justice, ce qu'aucun président n'a jusqu'à présent réussi à obtenir, faute de majorité.
Jean-Philippe Deniaux, l'accélération du déconfinement confirmée cette nuit par un communiqué du Conseil de défense et de sécurité. Les cinémas, centres de vacances et autres casinos vont rouvrir lundi prochain. Autre étape, 11 juillet, date de fin de l'état d'urgence sanitaire en France métropolitaine. Réouverture des stades et hippodromes, maximum 5000 personnes. Autoriser également la reprise des activités de sport collectif à partir de lundi, mais pas les sports de combat. Dans les hôpitaux en France, le nombre de malades en réanimation poursuit sa baisse. 727 personnes, 14 morts supplémentaires annoncées hier. Mais le virus est encore très présent. Les autorités le martèlent. Des dizaines de foyers en France, notamment en Île-de-France, où les opérations de dépistage se multiplient. Illustration à Bondy en Seine-Saint-Denis. Reportage Boris Allier.
L'esplanade de la mairie s'est transformée en laboratoire à ciel ouvert.
Numéro 36.
Dans la file d'attente, il y a François. Il a côtoyé récemment une personne testée positive.
Comme je l'ai vu il y a 15 jours, on m'a demandé de faire un test par précaution.
Je vais vous expliquer un peu le test.
Ça va ? Vous êtes confiante, non ?
Des étudiants en médecine comme Naël se sont portés bénévoles pour effectuer ces tests dits PCR.
Je rentre dans la narine, je tourne un peu histoire de prélever et je ressors, c'est fini.
Khadija habite Bondy.
C'était un peu désagréable, mais il fallait le faire. Pendant le confinement, j'étais tout le temps dehors, je faisais de l'associatif.
Donc vous êtes en contact avec
Les gens, si souvent, voilà. Donc je veux savoir.
Les autorités de santé, elles, ont identifié des endroits où le virus circule plus qu'ailleurs. C'est le cas à Sarcelles, où un peu plus de 3% des tests se sont révélés positifs, contre 0,5% en moyenne.
Ce que nous vivons là, nous le vivrons sans doute ailleurs.
Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé.
Il y a eu tellement de cas et de contaminations à Sarcelles que quand on cherche, on trouve, mais au fond, peut-être, on est sur la décrue. Ce qu'on sait, c'est qu'on est plus haut qu'ailleurs.
Et la plupart des personnes testées positives ne présentaient aucun symptôme au moment du dépistage.
Reportage signé Boris Allier.
La situation qui s'améliore en France, mais l'Organisation mondiale de la santé est plus qu'inquiète.
Selon l'OMS, non seulement la pandémie n'est pas terminée, mais en plus elle s'accélère hier. Record, plus de 150 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis l'apparition de la maladie. Au siège de l'OMS à Genève, Jérémy Lange.
The world is in a new and dangerous phase.
Nous venons de rentrer dans une ère nouvelle et dangereuse. Dès le début de son intervention, le patron de l'OMS plante le décor. Lever un peu plus les mesures de confinement ne veut pas dire baisser la garde, ce serait même tout l'inverse.
Many people are understandably fed up with...
Beaucoup de gens, et c'est compréhensible, sont fatigués de rester chez eux, dit Tedros Ghebreyesus. Les pays veulent rouvrir leurs sociétés, leurs économies, mais le virus se propage très vite. Il est toujours mortel et la plupart des personnes sont toujours exposées. C'est pour cela que nous appelons tous les pays et toutes les personnes à rester extrêmement vigilants.
Extreme vigilance.
Dans le détail, la hausse des contaminations est particulièrement importante sur le continent américain, Brésil et États-Unis en tête. Alerte également en Inde, en Chine, au Pakistan et au Moyen-Orient. La reprise progressive des activités en Europe ne saurait donc être le seul baromètre de l'ampleur de la pandémie. Le rappel à l'ordre de l'OMS s'accompagne d'un rappel des gestes barrières qu'il faut toujours respecter, dit l'agence. De même que pour les États, le dépistage et l'isolement des malades et de leurs contacts. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Sur la mort d'un docker du Havre sur fond de trafic de cocaïne. Ce délégué CGT retrouvé mort il y a une semaine sur le parking d'une école d'une commune des alentours. Trois hommes cagoulés l'y auraient déposé après l'avoir séquestré, roué de coups. Le docker avait été mis en examen il y a près de 2 ans dans une affaire de trafic de cocaïne. Précision Emmanuel Leclerc.
Sur le port du Havre, hier soir, l'arrivée d'un énorme porte-container. À 2 pas de là, la maison du syndicat CGT des dockers, porte fermée pour les journalistes. Mais certains évoquent le choc, évidemment, de la mort tragique de leurs camarades, mais la peur aussi. Depuis plusieurs jours, la rumeur circule qu'une équipe de tueurs colombiens ou mexicains au service des cartels de la drogue serait venue au Havre pour torturer et tuer l'un de leurs délégués syndicaux. Guillaume Routel est avocat. Il a défendu ces dernières années plusieurs dockers mis en cause dans des affaires de trafic de cocaïne.
On a parlé d'une personne qui a été torturée et qui a été finalement exécutée. On a parlé de choses absolument abominables, donc ça fait froid dans le dos de ce qu'on nous présente comme un règlement de compte.
En réalité, Alan Afagar n'a pas été torturé comme l'ont confirmé hier soir les magistrats en charge de cette affaire. Il y a bien eu en revanche un enlèvement avec une bagarre qui s'est terminée par la mort du docker. Un scénario qui en rappelle bien d'autres selon nos informations. Depuis 3 ans, ce sont pas moins d'une vingtaine de dockers et de personnels du port du Havre qui ont été enlevés, séquestrés et parfois roués de coups quand ils refusent de faire sortir des cargaisons de cocaïne ou parce qu'ils se font racketter après avoir touché des pots de vin, des sommes allant de 20 000 à 100 000 euros et parfois plus. Sur le port du Havre, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Une marche organisée cet après-midi dans le centre du Havre. La CGT Docker appelle à la grève dans l'ensemble des ports français. Rideau baissé appelle à la grêve également aujourd'hui dans les magasins de prêt-à-porter La Halle. Samedi, en théorie, jour de gros chiffres d'affaires, mais il y a 3 semaines, l'enseigne était placée en redressement judiciaire. Son avenir se joue la semaine prochaine, une centaine d'emplois menacés. Du coup, les syndicats ne jugent pas tous opportun de faire grève en ce moment, Maxime Deps.
Parmi les syndicats qui appellent les salariés à se mobiliser, aujourd'hui la CGT et son délégué syndical Karim Cheboub qui espère une mobilisation maximale.
On reçoit des appels de plusieurs salariés et de plusieurs magasins. Ça va être suivi, très suivi. Les salariés nous le disent pour la simple raison qu'ils sentent une injustice à leur égard.
Un sentiment d'injustice accru par le fait que les salariés non repris pourraient partir avec très peu d'indemnités. La CGT, comme 5 autres syndicats, voit donc dans cette grève notamment le moyen d'engager le rapport de force avec la direction pour qu'elle accorde des conditions de départ dignes à ceux qui seront licenciés. S'il comprend la démarche, Jean-Louis Alfred de la CFDT n'en déplore pas moins la méthode et pense aussi aux salariés qui peuvent être sauvés alors que les repreneurs, dont le principal, le groupe Beaumanoir, ont jusqu'à mercredi pour améliorer leurs offres.
Je ne pense pas que c'est en se mettant en grève que ça va inciter Beaumanoir à concrétiser son offre. Tant qu'on ne sera pas à mercredi soir, qu'on n'aura pas les offres concrétisées, on joue en fait sur des œufs. Donc si on appelle à une grève et que le gars s'aperçoit de ça, je vais dire, il va se dire c'est bon, je vais pas entrer dans un bordel pareil à 3 jours et il risque justement de ne pas concrétiser.
La CFDT qui par ailleurs conclut, il sera toujours temps de réclamer des comptes, y compris à l'État, plusieurs fois sollicité par les syndicats, mais qui dans ce dossier, La Halle, n'a jamais donné de la voix.
Maxime Deps. On l'a vu, les sports collectifs vont pouvoir reprendre dès lundi. Pour le moment, pour les sports d'intérieur, il faut s'adapter, voire se réinventer. C'est le cas notamment des cours de gym, activité très pratiquée par les retraités, où retour à la gym veut également dire retour à la vie sociale après des semaines d'isolement. Simon Cardona a assisté à un cours à Saint-Cyprien, au sud de Perpignan.
Tapis sous le bras et gel hydroalcoolique à la main, les 9 retraités s'installent sur un court de tennis à distance respectable l'une de l'autre.
Et 8, et on passe talons-fesses.
Ça fait 15 ans que Marie-Jeanne assiste à ses cours de gym et dès le déconfinement, elle n'a pas hésité une seule seconde à revenir.
Pas du tout, non pas du tout, parce que bon, c'est en plein air et puis bon, il faut y aller quand même, on ne va pas rester comme ça isolé. Vous voyez, on est une bande de copines là, toutes, et puis on a du plaisir à se retrouver. Quoi.
Il n'y a pas de risque si on fait attention, assure Christiane.
C'est pas n'importe quoi, hein. On se lave les mains, on met le masque, on garde les distances, enfin voilà, hein. On se fait pas la bise. Avant, on se faisait la bise.
Troisième fois, attention, Christiane, on met bien le genou devant la poitrine. On inspire, on souffle, on avale.
Isabelle, la prof de gym, a dû gommer certains de ses réflexes.
D'habitude, je corrige, je m'approche vraiment des gens hein, pour les corriger, mais là, j'évite de les toucher. Il nous faut 4 mètres carrés par personne, donc 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche. Bon, voilà, c'est facile de le respecter.
Hein. Tout le monde prend ses précautions et pourtant, la moitié des adhérentes ont préféré rester chez elles, raconte Pierrette, la présidente de l'association Les Mouettes.
D'ailleurs, ils m'ont tous répondu en disant on se reverra en septembre, on préfère pas prendre de risques pour des raisons ou pour une autre, mais surtout pour des raisons de santé, bien évidemment. Et de crainte, un peu de crainte aussi. Hein.
Pour celles qui n'osent pas encore participer au cours de gym, l'association Les Mouettes organise une marche mercredi prochain en petit groupe de 10 personnes.
Simon Cardona.
Et puis, pour terminer le journal, on va faire un tour au chantier, sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Plus d'un an après l'incendie du 15 avril 2019, la pause du confinement et la reprise, il y a quelques jours des travaux, rythme effréné car l'objectif c'est toujours de reconstruire l'édifice en 5 ans. Les cordistes du coup s'activent, ils sont 30 à se relier 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Antoine Lee a rencontré l'un d'entre eux.
Je suis en train de m'équiper pour aller rejoindre mon personnel sur le terrain et voir un peu les opérations qui sont en cours. C'est-à-dire mettre mon harnais, mes longes, mon anti-chute.
Et c'est où vous opérez? Alors montrez-nous.
Là, cette heure-ci, la tâche principale de mes équipes, c'est le démantèlement de l'échafaudage. Il y a 40 000 tubes d'échafaudage qui ont plus ou moins fondu, qui sont plus ou moins imbriqués les unes dans les autres, à découper progressivement et à démonter pour pouvoir libérer la cathédrale de ce poids. Donc après, on opère pour tous les corps de métier qui sont présents sur le chantier. On opère pour les architectes en chef. On opère pour les laboratoires, pour les accompagner dans le traitement et les analyses des différents endroits dans le chantier. Vraiment pour tous les corps d'État.
Et vous montez jusqu'à quelle hauteur ?
Jusqu'au point culminant aujourd'hui de la cathédrale, donc je crois que c'est 60 mètres, quelque chose comme ça. Le bâtiment nous impressionne, donc déjà avec le drame, l'incendie, et puis après c'est un bâtiment classé au patrimoine mondial de l'humanité, donc c'est forcément impressionnant de découvrir un petit peu les coulisses de ce bâtiment qu'on ne pouvait pas atteindre quand c'était ouvert au public. C'est Notre-Dame de Paris, donc oui, c'est un honneur de travailler dessus.
Attention. Voilà, reportage d'Antoine Léard, trouvé en intégralité ce soir dans le 18-20 de Pierre Veil à 18h55.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.